Et voilà, bonjour à tous.
Bonjour tout le monde, content d'être là.
Oui, on est toujours heureux de se retrouver pour les cours Lumière des Nations vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du don. Alors, le don, c'est une puissance. Le cours va s'appeler, bien sûr, la puissance du don. Le don, c'est une puissance parce qu'il est l'expression de l'amour. Enfin, il est supposé être l'expression de l'amour. La Bible nous dit que Dieu, notre Père Céleste, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu ne s'est pas contenté de parler, il est passé aux actes et il a exprimé cet amour, n'est-ce pas, pour l'humanité, pour chacun de nous, en donnant. Et donc son esprit en nous, si nous le laissons s'exprimer, bien sûr, il va faire de nous des donneurs. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
Mais moi, j'aime bien recevoir.
Oui, il n'y a rien de mal à aimer recevoir, on est bien d'accord. Maintenant, on juge de la maturité d'un enfant de Dieu par le fait qu'à un moment donné, il arrive au stade où il prend encore plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, il a du plaisir à recevoir et c'est tout à fait sain, n'est-ce pas? Mais il prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et quand il se lève le matin, eh bien, une de ses premières motivations, c'est de réfléchir comment je peux bénir quelqu'un, comment je peux bénir ma femme, mon mari, mes enfants, les frères et sœurs dans l'église. Ça, c'est la marque de l'expression de l'Esprit de Dieu dans une personne.
Ça me fait penser à Dieu qui devrait se dire, parce que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Alors Dieu aussi, quand le matin il arrive, il dit, mais comment je vais pouvoir bénir?
Oui, exactement.
Comment je peux donner à mes enfants le meilleur dans leur vie grâce au sacrifice que ce que Jésus, il a donné de lui-même qui était sa vie. Il a donné sa vie sur la croix pour que nous, on puisse avoir la vie et en abondance. Donc, chaque matin, on peut se lever et dire, « Oh Seigneur, merci. Merci pour tes bénédictions. Comment je peux être une bénédiction? Comment je peux bénir les autres? Comment je peux donner aujourd'hui? »
Ouais. Et Jésus a dit justement, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et donc, le don est lié, nous l'avons vu d'ailleurs dans le cours sur la puissance de l'amour, il est lié à une certaine forme de sacrifice. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on aime se donner pour les autres, on aime même perdre pour que les autres puissent gagner. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une personne donne qu'elle est obligatoirement bien motivée, donc par l'amour de Dieu.
C'est vrai.
Dans 1 Corinthiens 13, il nous est dit justement qu'une personne peut aller jusqu'à donner son corps pour être brûlée et pourtant ne pas avoir l'amour.
Ça, c'est difficile. La première fois qu'on lit ça, on dit, mais tiens, c'est un peu étrange ça. De donner sa vie pour les autres et pas avoir l'amour, mais comment ça peut exister?
La Bible nous explique cela, c'est que le cœur de l'homme, il est tortueux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'homme peut pratiquer des actes de justice sans être motivé par la justice. Wow, c'est énorme.
C'est vrai.
Mais maintenant, si on a l'amour de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, habitant en nous, cet amour va nous pousser à devenir un donneur. Donc faisons attention. Dans quel état d'esprit nous sommes un donneur, parce que selon la motivation qui est la nôtre, nos dons vont être agréés de Dieu ou au contraire vont être refusés par le Seigneur. Et c'est un peu l'histoire de Caïn et Abel. Ils ont tous les deux fait une offrande à Dieu.
Un était agréable et l'autre
ne l'était pas du tout parce que les deux étaient faites avec des motivations et un état d'esprit complètement différent. Alors, vous comprenez qu'à travers ce message sur le don, on ne va pas vous enseigner à donner n'importe comment, n'importe qui, n'importe quand. Il y a des règles. On a vu qu'une de ces règles par excellence, c'est notre motivation. On va y revenir. Mais on va voir dans le chapitre suivant les règles d'une loi qui s'appelle la loi de la semence. Eh bien, il y a une loi qu'on retrouve dans la parole de Dieu, une loi qui est un principe de vie, qu'on peut appeler la loi de la semence et de la récolte. Pourquoi ce nom? Eh bien, à partir de ce verset des Galates, Galates 6-7, qui dit que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et ce verset fait écho aux paroles de Jésus, qui lui-même a déclaré « Donnez et il vous sera donné ». En d'autres termes, c'est la loi de cause à effet. Pour être béni, il faut d'abord planter une semence. Il faut d'abord être soi-même un sujet de bénédiction. Alors, nous l'avons vu, l'idée n'est pas de partir dans tous les sens pour chercher à être béni, ce qui est une perversion de cette loi, de ce principe biblique de base, mais c'est que ce soit l'expression d'un cœur qui a envie de faire bien, qui a envie d'aider son prochain, qui a envie de donner, n'est-ce pas, je dirais même d'une manière désintéressée au départ, mais Dieu est un Dieu fidèle, il est le Dieu qui multiplie la semence. Dans cette règle et cette loi de la semence et de la récolte, obéit justement à certains principes, et nous allons les voir maintenant. Le premier de ces principes, c'est évidemment qu'on récolte quand on sème. Beaucoup de gens, vous savez, veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Imaginez un paysan qui, au moment de la récolte, de la moisson, il se rend devant son champ et il s'attend à pouvoir récolter quelque chose, alors qu'à l'époque des semences, il n'a rien semé. Ce serait une absurdité, n'est-ce pas? Eh bien, il en est de même pour les personnes qui s'attendent à récolter quelque chose de la part de Dieu, alors que dans leur vie, ils n'ont rien semé. Ensuite, le deuxième point important à réaliser au sujet de cette loi de la semence et de la récolte, c'est que Dieu y multiplie la semence. C'est-à-dire qu'il faut avoir une semence à planter. Parfois, on n'a pas de semence. On ne sait pas ce qu'on pourrait faire pour aider une personne. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Eh bien, voilà une bonne forme de prière. Prier pour que Dieu nous donne de la semence, c'est-à-dire qu'il nous donne une bénédiction qu'on ne va pas obligatoirement garder pour nous, mais qu'on va recevoir afin de la communiquer à quelqu'un d'autre. Et c'est dans cet état d'esprit que parle ce verset de Corinthiens 9, 10, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. » Nous avons besoin de semences pour pouvoir semer, bénir les autres, n'est-ce pas? Et quand nous n'en avons pas, eh bien, demandons au Seigneur de nous donner de la semence au lieu d'être simplement obsédés par l'idée de recevoir pour nous, pour nous, pour nous. Alors vous voyez, cette loi de la semence et de la récolte n'est pas basée sur l'égoïsme lorsqu'elle est mise correctement en action. Elle est basée sur le principe de chercher les intérêts des autres. Ensuite, on récolte en fonction de ce qu'on sème. Galates 6:8 nous dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera pour l'esprit, la vie éternelle. Je récolte en fonction de ce que j'ai semé. Si je veux récolter des radis, je ne vais pas semer des carottes. Si je veux récolter de l'amour, parce que j'estime que je manque d'amour, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de commencer à donner du peu que j'ai. Parfois les personnes vous disent « Oh, il n'y a jamais personne qui me sourit. » Mais lorsque vous regardez leur attitude, elles-mêmes elles ne sourient pas autour d'elles. Mais quand tu souris à quelqu'un, la plupart du temps, les gens vont naturellement te rendre le sourire. Donc, nous récoltons en fonction de ce que nous semons. Autre point très important à réaliser, c'est que nous récoltons proportionnellement à ce que nous semons. Et là, nous avons ce formidable verset de 2 Corinthiens 9, 6 qui nous dit « Sachez-le, dont nous sommes supposés prendre connaissance » de ces vérités. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, eh bien, il récoltera abondamment. Waouh ! Donc, nous avons parfois une mentalité dans nos milieux chrétiens où beaucoup de personnes voudraient récolter beaucoup là où elles ont semé peu. Or, c'est pas la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu, c'est que tu récoltes proportionnellement à ce que tu as semé. Maintenant, beaucoup est relatif, c'est-à-dire que pour Dieu, une personne qui n'a pas beaucoup, comme la femme, la veuve que cite Jésus, qui a mis une petite pièce dans le tronc du temple, Jésus a dit qu'elle a donné beaucoup aux yeux du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peu. Pour quelqu'un qui a 300 000 euros en banque, donner 10 000 euros, c'est pas obligatoirement beaucoup, même si la somme paraît importante. Donc tout est relatif et Dieu ne nous juge pas par rapport à la somme s'il s'agit d'argent, à la quantité de ce que nous donnons, s'il s'agit d'autres formes de semences, mais je dirais par rapport à ce que ça nous coûte, par rapport au prix que nous décidons de payer en semant notre semence, en apportant notre offrande ou notre don. On récolte aussi, autre point très important à réaliser, si on sème dans la bonne terre. Et là, nous avons l'exemple de la parabole du semeur dans l'Écriture. Le semeur, il sort pour semer, puis il sème dans quatre champs différents, mais la semence ne pousse pas partout. Si je vais sur la route et que je sème une semence, sur le goudron, elle ne va pas pousser. Donc, il est important de demander au Seigneur le discernement pour pouvoir semer dans des bons champs. Et parfois, nous voulons faire tellement de bonnes choses, je dirais, c'est bien intentionné, mais c'est fait dans l'âme. Nous voulons pourvoir un besoin. Or, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il est important de demander donc au Seigneur quelles sont les semences qu'il veut que nous fassions et pourquoi pas aussi celles qu'il ne veut pas que nous fassions. Être dirigé par l'Esprit, voilà l'Esprit du Nouveau Testament. Et donc, ce n'est pas semer dans tous les sens et dans tous les terrains qui se présentent. Obéir à Dieu correspondra toujours à pourvoir à un besoin, mais tous les besoins qui se présentent dans notre vie ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour nous. C'est une nuance importante à retenir. Et le dernier point que je vais exprimer sur cette loi de la semence et de la récolte dans ce chapitre, c'est que semer, et c'est la confirmation de notre introduction, doit être fait dans une bonne motivation parce que ça doit être l'expression de l'amour. Je sème parce que je suis motivé par l'amour de Dieu. Je suis animé par l'amour de Dieu. Et rappelez-vous ce que nous avons dit en introduction de ce cours. Dieu nous a donné l'exemple en semant, en donnant la vie de son Fils unique. Eh bien, nous sommes appelés à marcher sur ces traces et non pas à mettre en route des méthodes destinées à nous faire prospérer de manière égoïste. Non, nous devons permettre au Saint-Esprit de s'exprimer à travers nous et une des manières par excellence à travers laquelle il le fait, c'est à travers le don. Et en nous permettant de devenir, je dirais, experts pour gérer cette loi de la semence et de la récolte.
Alors, tout à l'heure, mon mari, il a dit qu'il y a plus de plaisir de donner que de recevoir. Et c'est bien la vérité. Mais combien entre nous, on a senti parfois que le cadeau qu'on a reçu ou les choses qu'on a reçues étaient peut-être données avec une mauvaise motivation. Parfois, les gens, ils donnent, mais d'une façon égoïste. Ils donnent parce qu'ils veulent manipuler les gens ou même, pire, acheter la faveur des personnes. Et pour finir, il nous fait sentir redevables et on est obligé de donner en retour de toutes les choses qu'eux, ils ont fait. Mais finalement, ce n'était pas donné avec une bonne motivation. Voilà un deuxième exemple. La Bible nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais pour quelques personnes, ça pose un vrai problème. Je pense à quelqu'un qui a tellement une mauvaise image d'elle-même qu'elle a l'impression qu'elle ne mérite pas ni l'attention, ni l'affection, ni de recevoir quoi que ce soit d'autres personnes. Elle va passer sa vie de servir, d'aider, de faire 40 choses pour essayer de bénir les autres, mais elle est incapable de réaliser qu'elle-même, elle a une valeur si précieuse aux yeux de Dieu. Et si on voit quelqu'un qui souffre d'un manque de confiance en elle, ou qu'ils ont un sentiment qu'ils ne méritent pas de recevoir et qu'ils ne sont que bons pour donner. Et on peut les encourager de vraiment réaliser qu'ils sont des merveilleuses créatures. Alors, comme ça, quand ils vont donner aux autres, ça va être équilibré et que ça ne va pas être au-delà de ce qu'ils devraient ou pourraient donner, mais qu'ils gardent aussi leur cœur. Alléluia. Et voilà un dernier exemple qui est peut-être plus problématique que celle que je viens de citer. Il y a des personnes qui ont une mentalité d'esclave. Je pense à celle qui est dans une relation néfaste avec peut-être un pervers narcissique, où ils sont obligés d'accepter même les inacceptables. Et ils donnent, mais ils n'ont pas le choix de donner. En fait, on prend sans demander leur avis. Et le Seigneur veut vraiment libérer des personnes qui sont dans des situations comme cela. Et ce que j'avais marqué dans mes notes ici, c'était que le don est un acte volontaire qui doit être fait avec joie et dans la liberté.
Eh bien voilà, ce que nous voulons à travers ces enseignements, ces cours, c'est finalement enseigner au peuple de Dieu les règles qui régissent le royaume de Dieu dont ils font partie. Et les règles qui régissent le royaume de Dieu sont complètement opposées, différentes aux règles qui régissent ce monde. Dans ce monde, par exemple, on dit « mon Dieu, c'est mon portefeuille ». Et dans le royaume de Dieu, la règle, c'est que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, c'est pas seulement différent, c'est complètement l'opposé. Et il en est de même avec le don. C'est pourquoi on veut vous enseigner, finalement, si je peux dire un peu avec humour, un jeu. Et ce jeu, il s'appelle « Qui perd gagne ». Vous savez, dans ce monde, qui perd perd et continue à perdre parce que ce monde vous prend tout ce que vous avez et il vous donne rien en retour. Par contre, la Bible nous dit que celui qui donne, inspiré par l'Esprit, avec un cœur joyeux, comme tu l'as mentionné précédemment, eh bien, Dieu va lui donner un retour. Il va perdre momentanément, parce qu'au moment où on donne, on perd ce qu'on donne, mais on va gagner, parce qu'en retour, Dieu nous multiplie la semence. Donc, on veut enseigner le peuple de Dieu à jouer régulièrement à ce petit jeu qui perd gagne.
En fait, Dieu, il veut qu'on soit heureux ici-bas sur terre. Et la meilleure manière qu'on peut réussir notre vie, c'est d'avoir un cœur généreux, un cœur avec de largesse, on dit. Un cœur qui se donne facilement et qui est toujours joyeux. Être quelqu'un qui est disponible pour les autres fait beaucoup dans la vie et qui permet Dieu d'être très généreux avec nous aussi.
Oui, Dieu nous rend en fonction de ce que nous donnons, comme on l'a vu précédemment.
C'est une loi naturelle.
Et il est important pour nos amis de réaliser que dans la vie, de toute façon, il n'y a rien pour rien.
C'est vrai aussi.
Le salut, il est gratuit, vous me direz. Mais finalement, si on réfléchit, il n'a pas été gratuit pour tout le monde. Il n'a pas été gratuit pour Dieu le Père qui a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Il n'a pas été gratuit pour Jésus qui a donné sa propre vie. Wow. Donc cette notion de gratuité, elle est toute relative. Et nous devons faire attention à la mentalité parfois que nous avons dans nos milieux évangéliques où on recherche à avoir toujours tout gratuitement. Nous voyons par exemple aussi que l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile. Et là, on entend certaines personnes nous dire, ben, vous voyez, un ministère, il ne doit pas récolter d'argent, il doit tout faire gratuitement. Mais on oublie que Paul précise, j'ai dépouillé d'autres églises pour vous apporter à vous justement gratuitement l'évangile. Donc quelqu'un devait payer. Et nous devons réaliser que lorsque nous bénéficions gratuitement de quelque chose, c'est parce que quelqu'un d'autre a payé. Donc, il est vrai que Jésus a dit annoncer gratuitement l'évangile, donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Et il n'est certainement pas notre but de remettre cette vérité en question. L'évangile est gratuit, mais les moyens pour l'annoncer ne sont pas gratuits. Pour prendre un avion pour aller annoncer l'évangile, il faut acheter des billets d'avion. Hein? pour pouvoir imprimer ne serait-ce que des tracts à distribuer pour annoncer l'évangile. Et même la Bible nous dit que l'ouvrier, celui qui annonce l'évangile, a droit à un salaire. Ça ne veut pas dire qu'il est là pour faire payer, n'est-ce pas, les gens pour le message du salut qu'ils reçoivent, mais ça signifie tout simplement qu'il faut qu'il soit en position, lui-même, de pouvoir avoir le temps et les moyens pour annoncer cet évangile gratuit. Donc attention avec cette notion de gratuité qu'on retrouve parfois, je le répète, la gratuité est toute relative. Mais dans la vie, il n'y a rien pour rien. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Un autre point important, c'est que le don est supposé être l'expression de la justice. Il est marqué dans le psaume 112:9 que le juste fait des largesses, il donne aux indigents, et sa justice subsiste à jamais. Ouais. Donc on voit le rapport avec le fait de donner la justice. 2 Corinthiens 9:10, celui qui fournit de la semence au semeur, eh bien il augmentera les fruits de votre justice. Ça signifie encore que le fait de semer, eh bien, permet à la justice de Dieu de se manifester au fruit de la justice, de croître.
Et c'est très important parce que finalement, si on a une mentalité un peu avare,
avare, oui.
Un peu, ou je ne sais pas, il faut que j'amasse le plus possible pour que je sois en sécurité.
On a toujours peur que nos escroques, qu'on va profiter de nous.
Ou que même de donner de notre temps, on n'est jamais disponible, on est toujours désolé, je suis trop pressée. Eh bien, on fait un mauvais calcul parce que Jésus, il a donné avec largesse. Il a été toujours disponible. Et je crois qu'on a des leçons encore à apprendre de ce côté-là.
Absolument. Voilà. Et puis, il y a des exemples dans l'Écriture. Moi, j'aime bien, tu sais, le cas de Corneille.
Alors, c'est Actes 10, 31.
Oui.
Et il parle de Dieu. Il a vu les offrandes de Corneille, ce qu'il a donné, ce qu'il a investi. Et ce n'était pas une petite chose, c'était quelqu'un qui était très actif.
Qui donnait avec largesse. Hein?
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'il est précisé là que Dieu s'est souvenu de tes aumônes, lui dit l'ange qui lui est apparu. Et il est précisé que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Et là, je voudrais, si je peux dire, tordre le cou à un concept qu'on a parfois dans nos milieux, l'idée qu'il suffirait de donner peu à Dieu pour que chaque fois il nous donne beaucoup en retour.
C'est un peu une mentalité de profiteur.
Oui, je donne le minimum, mais je veux récolter le maximum. Eh bien, ça, c'est une mauvaise mentalité.
Bon, parce que j'ai peu, eh bien, c'est les autres de donner et pas à moi d'investir aussi.
Oui, au lieu de donner un peu du peu que j'ai,
voilà,
comme pour manifester justement ma bonne volonté. Et il est important de ne pas avoir cette mentalité de profiteur au sein du peuple de Dieu, parce que ce n'est pas la mentalité de notre Père.
Mais Dieu, il ne va pas nous demander de donner plus que ce qu'on peut absolument donner. Mais en fonction de qui on est, de notre position sociale ou même de nos possibilités, c'est le geste qui compte.
Absolument.
C'est le geste qui compte.
Dieu ne nous demande pas d'aller avec la force que nous n'avons pas.
Exactement.
Mais il veut qu'on aille avec la force qu'on a, même si c'est peu.
Et quand on va, eh bien, il va multiplier ce qu'on a déjà. Et ça, c'est l'histoire des talons et tout ça.
Oui.
C'est important.
Oui. En fait, Dieu, il aime beaucoup. Hein? Il aime beaucoup. Et il est dit justement que Corneille, pardon, faisait beaucoup d'aumônes. Et puis, il y a le cas aussi de Dorcas. Il nous est dit, dans Actes 9, 36, qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Wow. Tu sais, parfois, les chrétiens, ils disent, « Oh, ben, c'est pas important ce que les gens font, qui ne connaissent pas le Seigneur. Hein, parce que tant qu'on n'est pas venu à Jésus, tout ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur, c'est dans la chair. » Eh bien, c'est pas vrai. Dieu prend plaisir à voir des hommes qui ne le connaissent pas encore, eh bien, manifester la bonté, parce que c'est un élan du cœur que lui-même leur a inspiré. Et Dieu est touché, comme pour Corneille, comme
c'est
pour Dorcas, lorsqu'il voit des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme sauveur, mais qui font du mieux qu'elles peuvent, parce qu'elles veulent rendre ce monde meilleur.
Il y a déjà un part de Dieu en eux, parce qu'il a la gentillesse et il y a la considération pour les autres. Et Dieu, il honore cela et il les attire vers lui pour qu'ils puissent être vraiment dans la révélation de sa personne.
Donc, il ne faut pas mépriser les gens et ne pas mépriser ce qu'ils font.
On apprécie des gens gentils. Hein?
Oui, ce qu'ils font là où ils sont, bien sûr. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, nous dit le psaume 41, versets 1, 2, 3. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Eh bien, pourquoi la personne dont il est question dans ce psaume est-elle délivrée par Dieu ? Sa vie est conservée et n'est pas livrée au bon plaisir de ses ennemis parce qu'elle s'est intéressée aux pauvres. Elle a donné à celui qui souffre et lorsqu'elle se retrouve elle-même dans la souffrance, ce qu'elle a semé à une époque de sa vie lui revient. Dieu la soulage sur son lit de douleur.
Alléluia, c'est encourageant pour tous ceux qui désirent de faire du bien et de faire la volonté de Dieu. Nous sommes les mains et les pieds de Dieu. Mmh. Et Dieu, il veut bénir, il veut donner aux hommes et il veut le donner à travers nous et à travers ce qu'on peut faire.
Mmh. Oui, donc, c'est vrai que toi, tu as beaucoup à cœur de mettre en garde les enfants de Dieu, Julia, de ne pas avoir cette mentalité de profiteur.
Non, mais une mentalité de donneur. Quand on va à l'église le dimanche matin, est-ce qu'on arrive pour... à l'église à l'heure ou peut-être même un peu en retard en disant, ah ben, je vais voir ce qu'on me donne aujourd'hui. On va voir s'ils vont distribuer peut-être de la nourriture ou est-ce qu'on va me donner quelque chose pour me faire du bien, pour me consoler.
Ma prophétie.
La prophétie, exactement. Ou est-ce qu'on arrive à l'église même un peu plus tôt parce qu'on a tellement envie de partager des bonnes choses avec les autres, de donner aussi un sacrifice vivant à travers le culte qu'on va honorer Dieu. La mentalité, c'est très important d'avoir la bonne façon de venir à l'église et d'être des donneurs
et serviteurs, pas
des profiteurs.
Des gens qui servent au lieu qui recherchent toujours à être servis. Hein.
Ah bien, il y a certaines personnes, surtout en Europe, il va à l'église un peu comme s'ils allaient dans un
supermarché.
Oui, un supermarché ou un self-service. Bon, donne-moi ça, non, ça je veux pas, etc. C'est pas comme ça que ça marche. On travaille ensemble et le corps de Christ a besoin de l'effort de chacun pour que le royaume de Dieu avance.
Donc, au lieu de vous poser toujours la question, qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi, peuvent me donner, eh bien, posez-vous régulièrement la question, qu'est-ce que je peux faire pour les autres?
Exactement.
Qu'est-ce que je peux leur donner?
Et là, c'est la joie. Et nous avons aussi l'exemple de Ruth, qui a fait un choix extraordinaire dans sa vie, de suivre sa belle-mère. Pourtant, elle n'avait pas de raison. Elle aurait pu rester dans son pays, mais elle a décidé d'accompagner Ruth, de ne pas la lâcher, parce qu'elle voulait l'honorer. Elle a donné de sa vie pour suivre cette personne et qui représentait aussi pour elle la foi en Dieu. Et on voit bien à la fin de sa vie comment Dieu l'a tout rendu, richesse, honneur. Et elle a pu être une grande bénédiction pour sa belle-mère, pour Naomi, et qu'elle a béni encore Naomi en étant bénie elle-même. J'aime beaucoup cette histoire et on peut tirer beaucoup d'enseignements là-dessus.
Tout à fait. Et quand on donne et qu'on se donne, on sort de sa zone de confort. Et pour être béni, souvent, il faut sortir de sa zone de confort et Dieu va nous rencontrer sur d'autres terrains, dans des chemins que nous n'avons pas l'habitude de prendre, mais il va nous rencontrer avec la bénédiction parce que nous avons osé nous aventurer, aller plus loin, et Dieu honore cela, et c'est ce qu'il a fait pour Ruth. Et nous encourageons nos amis qui recherchent la bénédiction eh bien, avant de chercher la bénédiction pour la bénédiction, à chercher la volonté de Dieu. Et cette volonté du Seigneur, souvent, nous sortira de notre zone de confort, nous amènera sur des chemins, comme je le disais, qu'on n'a pas l'habitude de prendre, dans des lieux qui ne nous sont pas familiers. Mais c'est là que Dieu nous apportera la bénédiction, parce qu'il nous rémunérera pour le choix que nous avons fait de renoncer quelque part à notre vie. Ça nous rappelle les paroles de Jésus qui a dit « Celui qui perdra sa vie, eh bien, il la retrouvera. »
De chercher des endroits où on peut être utile et que notre vie sert Dieu par les choses qu'on fait et par les personnes qu'on peut aider.
C'est vrai, notre vie n'est pas toujours utile là où on se trouve, mais elle peut l'être dans d'autres contextes. Mais il y a un pas à franchir souvent parce que ça fait peur de sortir de ses habitudes. Et le dernier point que je veux mentionner, c'est que le don, bibliquement, il est lié à l'alliance. Mmh. Il est lié au principe de l'alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Eh bien, c'est un échange de dons. Lorsqu'on décide de se marier avec une personne, eh bien, on prend la décision, chacun, de faire notre part pour que l'alliance fonctionne.
Absolument.
Une alliance ne fonctionne jamais d'un seul côté. Mmh. C'est-à-dire qu'il y aurait celui qui donne toujours et celui qui reçoit toujours sans donner. C'est la meilleure façon pour que un mariage et une alliance, quelle qu'elle soit, ne fonctionne pas. Et pourquoi est-ce qu'Abraham a été appelé ami de Dieu? Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'Abraham, il était prêt à faire pour Dieu ce que Dieu allait faire pour lui en offrant la vie de son fils unique. Donc, c'est pas l'alliance ou le principe dont on parlait tout à l'heure, où un des partis, eh bien, il donne des cacahuètes, permettez-moi l'expression, et l'autre, il donne tout, il donne sa vie. Non, c'est deux personnes qui décident de offrir et de donner leur vie à l'autre. Et c'est pour ça que parfois l'alliance que nous avons passée avec Jésus ne fonctionne pas, parce que nous avons mis toute la responsabilité sur Jésus pour être le donneur. Et nous ne lui donnons rien ou pas grand-chose en retour. Mais la Bible nous dit que nos vies lui appartiennent maintenant. Et nous devons marcher dans cet état d'esprit où « Merci Seigneur pour ce que tu me donnes, mais je suis là Seigneur, je t'appartiens, tout ce que j'ai est à toi, commande et je ferai les actes de justice que tu me demandes de faire pour te bénir à travers ton corps. » Parce que nous bénissons Jésus, comment? Eh bien, en laissant le Saint-Esprit nous utiliser pour bénir les autres. Chers amis, eh bien, nous sommes très heureux avec Julia chaque fois de pouvoir partager la parole de Dieu et donc, rappelez-vous, partager les principes du royaume qui Amen. Vont nous permettre d'évoluer dans cette vie, dans la victoire et en voyant la bénédiction de Dieu à un moment donné qui nous touche. C'est notre salaire, c'est ça notre salaire.
Ben, quel plaisir de donner, quel plaisir de faire ces vidéos, quel plaisir de revenir vous voir d'une certaine façon chaque semaine à travers ces cours LDN. Et c'est parce que le Seigneur nous a donné cette idée.
Et nous voulons donner
et qu'on veut retour. Donner notre retour pour tous ceux qui ont besoin d'être fortifiés dans la foi. Donc on espère que vraiment nos efforts de faire ces petites vidéos va récolter beaucoup de fruits pour le royaume.
C'est semence pour récolter.
Hein? Amen.
Beaucoup de fruits. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez richement bénis.
Au revoir.